Voyage en Autarcie, le podcast qui part à la rencontre des peuples méconnus à travers le monde. Sous le regard d'un voyageur occidental, je vous propose de découvrir leur origine et leur culture. Moi c'est Laurie, je suis passionnée de voyage et surtout d'aventure. Par le biais d'anecdotes croustillantes, je vous fais sortir de votre zone de confort et des sentiers battus. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène en Guyane, dans le village de Taluen, avec le témoignage de Marie, une aventure inédite et pleine de surprises. La Guyane est située en Amérique du Sud, limitée à l'ouest par le Suriname, au sud par le Brésil et au nord par l'océan Atlantique. C'est un département d'outre-mer, avec une superficie de 83 000 km². Elle est le plus grand département de France et se situe à 7200 km à vol d'oiseau de Paris. Comment Marie a-t-elle atterri là-bas ?
De manière totalement surprenante, j'ai choisi la Guyane. La raison, c'est que j'ai vu un film quand j'étais petite qui s'appelait « Un Indien dans la ville ». Et j'ai été fascinée par Mimicicu. Mimicicu, c'est un jeune Amérindien qui se retrouve à Paris. Ça m'a totalement absorbée. Et je me suis dit, un jour, j'irai à Lipolipo, le village de Mimicicu, et j'irai voir si ça se passe vraiment comme ça, et surtout, si Mimicicu, le prénom de l'Indien, ça veut dire Pipicha, comme ce qui s'est dit dans le film. Et il faut savoir que quand j'ai parlé un petit peu autour de moi, que j'ai cherché des contacts pour partir en Guyane, pour entre autres rencontrer les Amérindiens, je me suis heurtée à beaucoup de murs, de gens qui m'ont dit « Mais ce sont pas des bêtes de foire, qu'est-ce que tu vas faire là-bas » Donc j'avais laissé ça de côté, et il se trouve que pendant le voyage, j'ai eu cette opportunité incroyable d'aller en village amérindien, et je suis allée dans un village qui s'appelle Taluen, et roulement de tambour, il est à 5-10 km de Lipolipo, dont j'imagine le film « Un Indien dans la ville » a été librement inspiré.
Son voyage est semé d'opportunités. Marie enfile la casquette de chef scout dans la jungle à Kourou, puis elle part à la recherche des tortulutes sur la côte est. Et petit à petit, descend le fleuve en pirogue pour rejoindre son objectif de départ, la petite ville de Maripasoula. Uniquement accessible en pirogue ou en avion, Maripasoula est une ville frontalière du Suriname, où le trafic de drogue, d'êtres humains et d'animaux sauvages est monnaie courante.
C'est pas l'endroit le plus safe pour une jeune fille qui voyage seule. Et d'ailleurs, ça a été un sujet de dispute avec mon père, parce que il m'avait interdit d'aller sur le Maroni, parce que c'est vraiment un endroit, on va pas se mentir, c'est dangereux, surtout pour une jeune fille naïve comme moi. J'avais pas compris que j'avais promis ça, et bon, tant pis, j'y suis allée. Je regrette pas, il y a aucun regret. Et enfin, quand je suis arrivée à Maripasoula, j'ai demandé si c'était possible d'aller voir les Amérindiens. On m'a dit non, c'est interdit. Et en fait, j'ai trouvé une pirogue qui m'y emmenait. Le matin, je pars et je sais pas où est-ce que j'arrive le soir. Je sais pas où je vais dormir. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dans ce voyage. C'est l'inattendu. Je sais pas où je vais dormir, mais ça n'a aucune importance. Tout va bien se passer. Et j'ai rencontré une jeune femme, une française, une infirmière. Et elle m'a dit, moi, je descends à Taluen. Et j'ai dit, écoute, si tu veux, je descends avec toi.
Arrivé au village amérindien de Taluen, il fait déjà nuit. Marie se met en quête d'un endroit pour dormir, mais avant cela, les présentations s'imposent.
Normalement, quand on arrive dans un village amérindien, il faut se présenter au chef du village. Je l'ai rencontré, mais de manière non officielle. Normalement, il faut se présenter, arriver, et on peut demander à poser son hamac dans une case qui a un nom assez particulier. C'est le Tukushipan, où au sommet de cette case, on a un ciel de case, donc qui représente des scènes de la mythologie amérindienne. Et ce ciel de case, il est créé en sable coloré, donc on a du vert, du bleu, du rouge, du blanc, du orange, et c'est un sable qu'ils ont trouvé naturellement de cette couleur, il n'a pas été coloré de manière artificielle. Et une fois qu'on a demandé l'autorisation au chef du village, on peut poser son hamac dans le Tukushipan. Pour ma part, j'ai pas posé mon hamac au Tukushipan parce que c'est vrai que c'est une case qui est ouverte, donc on a très peu d'intimité. J'ai eu la chance de rencontrer l'infirmière du village et elle m'a proposé de dormir à l'infirmerie.
En Guyane, la plupart des habitants, même au fin fond de l'Amazonie, parlent français, une aubaine pour Marie.
J'ai été spécialement contente de pouvoir m'exprimer en français avec eux. Et que les Amérindiens puissent parler français, ça a été pour moi un soulagement, notamment parce que j'avais une question très importante à leur poser. En tout début, je vous ai parlé de Mimicicu dans Un Indien dans la ville. Mimicicu qui est le jeune Indien qui arrive à Paris. Et dans le film, il explique que Mimicicu veut dire Pipicha. Je trouvais ça tellement drôle que je voulais savoir si c'était un vrai prénom ou si c'était un prénom inventé. Donc, j'ai dû leur poser la question et la réponse est... Roulement de tambour, Mimisiku, c'est un vrai prénom et ça veut vraiment dire pipi de chat. Et il y a une personne qui s'appelait comme ça à Taluen, là où j'étais. J'étais si contente, c'est le genre de choses que tu peux pas expliquer si tu parles pas la langue. Par contre, le dépaysement, il est mitigé. D'un côté, on est au fin fond de l'Amazonie. Ils arrivent avec une cuisse de tapir. Et dans les carbets, tu vas trouver des animaux de compagnie comme un paresseux, un bébé orang-outan, un perroquet. Mais en même temps, une chose aussi qui m'a vraiment mis une petite claque, c'est que les Amérindiens de ma génération, donc à peu près de 20 ans à l'époque, ils ne veulent pas être Amérindiens. Ils veulent absolument se rapprocher de la métropole, des gens connus, de ce qu'ils voient sur Facebook, sur YouTube. Les premiers Amérindiens que j'ai rencontrés, ils avaient les cheveux décolorés, les cheveux teints, des piercings, des tatouages, des jeans délavés avec des trous aux genoux. Et il y en a un, je lui ai demandé ce que voulait dire son tatouage, il m'a dit « Non, je sais pas, c'est le même tatouage que Nicki Minaj. » Non, je n'étais pas prête à cette réponse. La vraie tristesse que j'ai ressentie, c'est que cette génération est totalement déconnectée de la génération de leurs parents. Par exemple, c'est avec moi qu'une amie, une jeune fille amérindienne, qu'elle a fait la première fois du kashiri. C'est une boisson alcoolisée typique d'Amazonie. Donc, elle n'avait jamais fait de kashiri. Elle ne sait pas tisser un hamac comme sa mère. Et les jeunes hommes que j'ai rencontrés, ils ne savaient même pas pagayer. Un ami, il a utilisé une pirogue pour la première fois de sa vie, simplement pour mes beaux yeux. On a une vraie perte des connaissances et des traditions qui s'est faite. Donc, à la fois, j'étais très heureuse de voir comment on cuisine un paresseux, par exemple. Et en même temps, j'étais un peu triste que les Amérindiens de mon âge soit plus attiré par les clips de YouTube et des artistes comme Nicki Minaj que juste par les activités quotidiennes de leur village. Je me douchais dans la rivière. Dans la rivière, c'est là où on se douche, où on nettoie la vaisselle, où on nettoie les habits et où on fait nos besoins. Je me lavais quand je pouvais, mais comme il fait bon et qu'il fait chaud, on transpire beaucoup. Il faut faire plus de lessive qu'on a envie, sauf que comme le temps est un peu humide, ça sèche pas forcément toujours très bien. Et le petit point sympathique, c'est que comme je suis une jeune femme, j'ai eu évidemment mes règles. Et avoir ces règles, tout va bien, sauf que mes règles sont apparues quand j'étais sur la pirogue en direction du village amérindien. Cette pirogue qui ne s'arrête pas de la journée. Donc le matin, tu te lèves quand le soleil est encore couché, tu grimpes dans la pirogue et elle s'arrêtera seulement le soir quand il fera sombre. Et en plein milieu de journée, je me rends compte que j'ai mes règles. Super, super, super. Donc le soir, j'arrive dans un village que je ne connais pas. J'essaie de trouver... Il n'y a pas de salle de bain, on va pas se mentir, il n'y a pas de salle de bain. Donc j'essaie de trouver un endroit pour rapidement faire pipi et mettre ma cup. Je trouve un endroit sympa près de la rivière. Je commence à me changer. Et là d'un coup, qu'est-ce que j'entends? Je vois une pirogue qui passe. Il n'y avait personne. Le fleuve était tout tranquille. Je me dis non mais c'est bon. La pirogue, elle va pas s'arrêter à côté, tout va bien. Donc moi, accroupie, les fesses à l'air, qu'est-ce que je vois? La pirogue qui s'arrête juste à côté de moi! Super! Donc, c'était pas ouf, mais bon. Je suis partie le lendemain matin, ils m'ont oublié, tout va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un village amérindien, il y a une infirmière qui est là. Et il y a un médecin qui arrive une fois par mois. Donc, si par exemple, une femme doit accoucher, pas de médecin. Si tu te casses une jambe, il n'y a pas de médecin. Et pour ça, il faut aller à la ville la plus proche, en pirogue. Donc, il y a intérêt de ne pas avoir d'urgence. Et encore, il faut se rappeler qu'on est au fin fond de la jungle et que c'est quand même pas vraiment équipé. Par exemple, moi, j'ai eu une chance incroyable. C'est que un jour, j'ai eu une conjonctivite. Mais une conjonctivite! On aurait dit que j'avais un macaron à la place de l'œil. Je pouvais même plus voir. Mes yeux étaient tellement gonflés que j'avais perdu la vue. Et le jour où j'ai cette conjonctivite, il y a le médecin qui vient d'arriver et il reste un jour. Il fait un tour comme ça, il reste à peine un jour ou deux. Donc j'ai eu la chance d'avoir un médicament. J'arrive pas à vous expliquer à quel point j'étais défigurée. En fait, il y a un enfant qui a eu tellement peur en me voyant qu'il a pleuré. Ça m'était jamais arrivé. Donc petit tips pour vous en Amazonie, fermez les yeux quand vous êtes dans la rivière.
Dans la jungle, les Amérindiens consomment beaucoup de gibier. Paresseux, pécarés à collier, tatous, tapirs ou encore iguanes, tous ces animaux sont protégés, mais les Amérindiens ont une dérogation pour chasser et se nourrir. Leur nourriture est composée de viande de brousse, mais pas que.
Ah, la nourriture! Super, j'adore parler de ça! La Guyane, ça coûte à peu près 2 fois plus cher qu'en métropole. Donc, pour la petite étudiante que je suis, tout est rapidement inaccessible. C'est-à-dire que le kilo de tomate à Kourou est à 6 ou 7 euros. Donc, tout est très vite cher. Toutes les épiceries, elles sont pas tenues par des Guyanais, elles sont toutes tenues par des Finnois. Et les prix sont très élevés. Donc, il faut se rabattre vers la nourriture traditionnelle. Ça tombe bien parce que j'adore. Il y avait tellement de fruits que je ne connaissais pas. Souvent, j'allais au marché et je prenais juste quelque chose que j'avais jamais goûté. Donc, j'ai un souvenir d'un shadek. Un shadek, c'est une sorte de gros pamplemousse. Excellent. Il y a aussi la papaye que vous devez sûrement connaître. Quand elle est verte, on la consomme râpée en salade ou même en gratin avec des pommes de terre. Et sinon, j'ai eu la chance de goûter du couac. J'étais en pirogue justement pour arriver chez les Amérindiens. Et je savais absolument pas où j'allais arriver, ni combien de temps allait durer le trajet. Du coup, j'avais prévu aucune nourriture. Bien joué, Marie. Et donc, c'était le deuxième jour de pirogue. Mon voisin de pirogue m'a offert du couac qui baignait dans un fond de sardines à huile. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas excellent. Ça ressemble à de la semoule. C'est une espèce de farine faite avec un aliment traditionnel de là-bas qui s'appelle le manioc. En fait, les Amérindiens cultivent le manioc. C'est la nourriture de base traditionnelle. C'est avec ça aussi qu'ils font le cachiri, le fameux alcool traditionnel. Le cachiri, c'est excellent. Mais le gros problème, c'est que eux, ils le boivent, mais même pas dans des verres. Ils le boivent dans des espèces de casseroles en plastique, des louches énormes. Et quand ils t'en proposent, il faut que tu boives. Et tu bois pas beaucoup d'alcool, le goût est excellent. Mais leur consommation d'alcool, pouf, elle était plus élevée que la mienne. Et petit point amusant, une fois j'ai eu la chance de participer à une fête avec les Amérindiens et j'ai vu un Amérindien vomir et voir un vomi rose fluo. Alors là, c'était une première pour moi.
Chez les Amérindiens, les tâches sont partagées. L'homme chasse, conduit la pirogue, la femme cuisine, tisse des hamacs. Marie s'est sentie privilégiée de pouvoir partager des moments à la fois avec les hommes, les femmes et les enfants.
J'étais jamais à m'ennuyer et j'étais constamment dehors à parler avec les gens, à me dire « Ah tiens, mais c'est quoi cet animal qui est là? Un pécari à collier? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, mais il se laisse caresser comme un chien !» Les filles qui disaient « Ah bah tiens, viens, on va se baigner !» J'étais beaucoup avec les enfants, qu'est-ce que je me suis régalée avec eux. Je leur laissais faire plein de dessins sur mon carnet, et puis les enfants, c'est eux qui m'ont amené voir l'orang-outan, Georges, qui m'ont fait découvrir tant de choses, ils prennent ma main et paf, on part. Donc j'avais une vie qui était très heureuse. Je cuisinais, j'allais voir des gens, j'ai rencontré aussi des Amérindiens qui m'ont fait visiter. J'aide à préparer le cachiri. C'est une vie qui est vraiment très belle. Et les gens, ils sont un peu surpris parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir une touriste toute seule, une jeune fille qui reste là en plus. Donc ça les a surpris et ils m'ont vraiment fait une place. C'est-à-dire que dès qu'ils me voyaient, ils me disaient « Allez, assieds-toi, viens voir le cachiri avec moi !» Ou « Oh, regarde, c'est comme ça que je fais des parures en perles !» Et j'ai passé des heures entières à voir cette très belle femme qui faisait des sublimes parures en perles. C'était vraiment se laisser porter toute la journée et juste être disponible. Être disponible pour provoquer les rencontres.
En Guyane, la plupart des habitants sont chrétiens, mais les Amérindiens ont quand même gardé quelques-unes de leurs croyances.
Ils ont des légendes, en fait, avec les animaux de la forêt. Donc beaucoup, par exemple, d'animaux qui sont en fait des humains, qui disparaissent dans un lac, avec des tamanoirs, par exemple, des lamantins. Et maintenant, je suis un petit peu amère par rapport à ça, parce qu'ils construisent des églises. Et quand j'étais avec un Amérindien, il m'a dit « Si toi, en tant que blanche, avec des longs cheveux, tu mets une robe blanche et que tu arrives comme ça dans le village, ils vont croire que tu es l'incarnation, un ange en fait. » Ça m'a surprise. Ce qui m'a aussi surprise, c'est la construction d'une nouvelle église toute neuve dans le village des Amérindiens où j'étais. J'ai été un peu surprise de l'implantation d'une religion chrétienne dans un pays où on était plutôt, si je dis pas de bêtises, animiste. Maintenant, les pirogues, elles avancent avec un moteur. Alors qu'avant, on pagayait. Il y a même une télévision dans une maison Alors cette télévision, elle n'est pas toujours allumée, on va pas se mentir, mais c'est la télévision du village et j'ai proposé aux enfants de dessiner ce qu'ils voulaient sur mon carnet et il y a une petite fille qui m'a dessiné la télévision. Donc ça devait être quelque chose d'assez important pour qu'elle dessine une télévision et elle m'a dessiné une jeune femme avec des talons aiguilles. Donc ça m'étonne qu'elle ait vu des talons aiguilles au fin fond de la jungle, peut-être que je me trompe, j'étais pas prête à avoir certes une télé qui est pas allumée. Et puis bien dessiné, hein, avec tous les boutons, même, je pense, les haut-parleurs. Et voir qu'au fin fond de l'Amazonie, il y a des gens qui connaissent Nicki Minaj, qui connaissent ses sons, qui soient aussi connectés, qui aient des piercings, pas un piercing traditionnel, comme avec une petite baguette dans le nez, non, non, des piercings un peu bling-bling. Ça, vraiment, j'étais sur les fesses. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc oui, ils ont tous un téléphone, et les jeunes, des fois, vont étudier en métropole. C'est pas du tout dommage, je suis très contente qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Moi, ce qui m'a attristée, c'est que les gens de ma génération, en plus d'être connectés, perdaient totalement le savoir de leurs parents, en fait. Et qu'en une seule génération, il y ait cette totale discontinuité, ils étaient plus connectés que moi, je l'étais. Et ça, j'étais vraiment surprise.
Durant ces deux mois en Guyane, Marie est émerveillée par la multitude de cultures qu'elle y rencontre. Haïtiens, Amérindiens, Chinois, Hmong, et parfois surprise de l'intérêt que lui portent certains hommes. Pour le bon déroulement de son voyage, elle a dû poser ses limites.
En étant une jeune fille blanche qui voyage seule, je suis vraiment un aimant à hommes. C'est-à-dire que j'ai voyagé beaucoup, mais j'ai jamais été autant courtisée de toute ma vie. Pour eux, une jeune femme blanche, c'est vraiment le symbole de la réussite. Et moi, j'avais des très longs cheveux, un sac à dos, et plus clairement, mon voyage se faisait au gré des rencontres. Donc, beaucoup d'hommes m'ont fait des propositions plus ou moins décentes. Ma première soirée en village amérindien. Il se trouve qu'il y a des jeunes hommes qui nous accueillent et ils commencent à parler avec nous. Et très rapidement, il y en a un, il est très entreprenant. Et à 23h, il propose de me faire visiter le village. Alors je suis pas si naïve, je décline l'invitation et je rentre me coucher dans l'infirmerie. Quelques minutes après, il arrive, il vient frapper à la porte et il refuse de partir de ma chambre tant qu'il n'a pas eu un bisou. Et il veut passer la nuit avec moi. Alors clairement, de mon côté, il n'y avait pas moyen. Alors pour le refroidir, je lui dis que la seule chose qui dormait avec moi, c'était mon couteau. Et tiens donc, il est parti un peu bredouille, mais voilà. J'ai pas eu peur parce que je me suis pas sentie en danger. Par contre, il fallait être très ferme sur ce que je ne voulais pas faire. Les Amérindiens aussi, il faut comprendre qu'ils sont très peu et ils se connaissent tous. Donc, un jeune homme de 20 ans, il sait exactement avec quelle femme il va pouvoir, on va dire, se marier. Parce que entre celle qui n'est pas sa sœur, sa cousine, sa tante, il n'y a pas tellement de choix. Et j'ai parlé avec certaines personnes qui m'ont dit que c'était vraiment triste parce que ils peuvent pas choisir vraiment leur partenaire. Donc, ils ont 4 ou 5 potentiels futurs partenaires. Donc dès qu'il y a une jeune fille blanche, célibataire et naïve comme moi qui arrive, forcément, tout le monde tente sa chance. Avant de partir, j'ai absolument envie d'aller voir les marais de Caux pour aller voir les caïmans qui sont là-bas. Vous arrivez à négocier avec la personne, est-ce qu'il y a moyen de payer moins cher en faisant pas ça? Moi, je veux juste voir les caïmans. Je dors sur son balcon et donc voilà, on est parti dans les marais de Caux et on va voir enfin les caïmans. Et je suis très contente. Et donc, il nous propose de nous baigner. Donc super, je me baigne, je suis aux anges et je remonte dans la pirogue et je lui demande, au fait, c'est où qu'on va aller voir les caïmans ce soir? Et il me regarde, il fait, ben là. Je fais, comment ça là? Et il me montre un caïman qui passe à quelques mètres, qui nage. Oh là là, les gars. Je suis jamais remontée aussi vite dans une pirogue.
Après deux mois à vadrouiller en Guyane, il est temps pour Marie de rentrer en France.
Le plus dur pour chaque voyage, c'est pas de partir. Partir, on y va, le cœur léger. On est tellement heureux de découvrir tant de choses que partir, c'est la partie la plus facile. Le plus difficile pour moi, ça, à chaque fois, ça a été de rentrer. Rentrer en France, t'arrives dans un autre pays. Il y en a des fois, t'as pas eu d'eau courante, t'as pas d'électricité, tu t'es pas lavé, tu dors dans un hamac. Et là, t'arrives en France, tu te rends compte que t'as des poils partout sur tes jambes, parce qu'au bout, on va pas se piler en voyage, hein. tranquille. Il y a des boutons partout, tous les moustiques, les insectes qui t'ont dévoré. Et là, t'arrives en France. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est le climat. Tu reviens en métropole et il fait plus chaud et humide. T'as cette espèce d'atmosphère pesante qui a disparu. Et le silence. Dans la jungle, il y a toujours un animal qui chante, des insectes qui crissent. Il y a des oiseaux que je peux reconnaître juste au cri. C'est une autre culture. Et arriver en France m'a complètement dépaysée. Quand il a fallu quitter l'Amazonie, ça m'a brisé le cœur. C'est un souvenir qui est plus qu'impérissable. C'est quelque chose qu'on a vécu là-bas, qu'on pourra plus jamais revivre et qui nous a changé vraiment profondément. Je me rappelle de la photo, la première photo que je prends quand je rentre en France. Enfin, c'est ma mère qui la prend à ma place quand j'arrive à la maison à pied. Et j'ai un regard qui est complètement perdu. Un regard totalement hagard, déconnecté. Et ça a été compliqué. Ben là, je suis en train de relire mon journal de bord et je suis complètement déconnectée de la réalité. Et je répète, ne pas penser. Donc l'avion se pose, ne pas penser. Prendre le train mécaniquement, ne pas penser. Descendre, marcher, ne pas penser. Chaque pas m'éloigne un peu plus, ne pas penser. Je sonne, trop tard, c'est le bruit fatal, le bruit de la fin. Je suis rentrée, ne pas penser. Donc je suis complètement déconnectée, perdue, et j'ai pas envie de me rendre compte que c'est une partie de moi, une page qui se tourne, et j'ai encore tant d'émotions, alors que ça s'est passé il y a 5 ans et demi. La Guyane, c'est un pays auquel je rêve souvent et j'ai très envie de retourner. Ce sont des souvenirs qui sont tellement forts et puissants que je pense que la jungle fera partie de ma vie future, j'en suis même quasiment certaine.
Nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode de Voyage en autarcie. J'espère vous avoir donné envie de tenter cette expérience par vous-même et que cette aventure dans le village de Taluen vous aura inspiré. Merci à vous d'avoir suivi ce chapitre au cœur de la vie guyanaise, illustré par le récit de Marie. N'hésitez pas à liker et partager. En bonus, Marie a souhaité vous lire une prière amérindienne qui, je l'espère, vous inspirera.
Fais en sorte que je sois toujours prête à venir vers toi, les mains tendues et le regard serein, pour que quand la vie me laissera, comme le soleil qui baisse à l'horizon, mon âme puisse venir vers toi sans remords.
On se retrouve dans un prochain épisode de Voyage en autarcie. D'ici là, portez-vous bien et comme diraient les Guyanais, bon tsoué.